Sirène et blablabla en direct du Longchamp Palace ce soir, l'émission mensuelle consacrée aux arts dans l'espace public, proposée par La Grenouille et Lieux Publics, Centre National de Création des Arts de la Rue. Sirène et blablabla, une émission qui prolonge et fait écho à Sirène et Midinette, une performance que vous retrouvez le premier mercredi du mois à midi, sur le parvis de l'Opéra de Marseille, une performance menée chaque mois par des artistes différents, d'ici ou d'ailleurs, musiciens, plasticiens, danseurs, acteurs, performeurs, poètes ou, comme aujourd'hui, artistes de cirque. Et c'est bien sûr du cirque dont nous allons parler ce soir, du cirque en piste, au théâtre et surtout dans l'espace public. Pour en débattre, les auteurs de La Sirène de ce Midinette, Christophe Ruille, Julien Cassier et Sébastien Barrier du GDRA, une compagnie qui associe la performance, le théâtre d'action et les sciences humaines. Ils sont accompagnés de Guy Carrara, fondateur avec Pierrick Pillot du cirque Archaos et directeur du CREAC, Centre de Recherche Européen des Arts du Cirque. Notre invité permanent sur ce plateau de Sirène et Blablabla, Pierre Sauvageau, compositeur et directeur de Lieux Publics. Et pour animer avec moi ce plateau, Célia Pasco. Salut à tous.
Bonsoir.
Peut-être pour commencer, Pierre, si tu veux bien, je te propose pour introduire cette discussion de nous présenter peut-être un peu plus en détail que je ne l'ai fait, les artistes de cette sirène. Comment est-ce que tu les as rencontrés et que sais-tu d'eux ?
En fait, il s'est passé quelque chose d'assez un peu étrange, c'est que pour la première fois depuis que je dirige le public et qu'on a lancé cette histoire de Sirène et Midinette, j'étais pas là. Je suis arrivé en retard, donc je le dis, et donc en plus c'est bien parce que je vais pouvoir parler de quelque chose que je n'ai pas vu. Non, GDRA, on est typiquement, d'ailleurs ça fera partie de notre discussion, sur un peu le cousinage qui existe depuis longtemps sur le monde du cirque contemporain et le monde de l'espace public ou des arts de la rue, qui y ont eu plutôt même une enfance commune, hein, années 70-80, que moi j'ai connu un peu, c'était le même milieu, c'était vraiment les mêmes artistes, les mêmes lieux, les mêmes compagnies. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont affirmées, les gens ont grandi, les disciplines se sont affinées. Il y a eu un monde du cirque contemporain d'un côté et un monde de l'espace public de l'autre. D'ailleurs, c'est l'objet qui m'a intéressé, y compris dans d'ailleurs des choses qu'on développe avec le CREAC dont on va parler. C'est que, par contre, maintenant que les deux disciplines sont clairement identifiées, c'est peut-être le moment, au contraire, de les remettre en contact parce qu'elles ont pas mal de choses à se dire. Donc, moi, je connaissais pas tout le monde. Je connaissais Sébastien Barrier un petit peu. C'est quand même une personnalité du monde toulousain, des arts de la rue. Vous savez qu'à Toulouse, il y a ce lieu qui s'appelle l'usine, qui est à Tournefeuille, qui est un lieu de fabrication avec deux très grandes compagnies, La Machine d'un côté, Le Fun. Donc vraiment des grandes compagnies d'arts de la rue. Ce lieu maintenant se développe. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnalités. Donc on se connaissait vaguement comme ça, on se croisait. J'avais croisé Sébastien Barrier plutôt dans son travail musical. Christophe Ruille, qui avait travaillé avec Générique Vapeur ici sur une création. Et quant à Julien Cassier, je ne connaissais pas du tout. Alors ça, c'est simple. Bon. Donc, par contre, c'est une compagnie très atypique. D'ailleurs, eux-mêmes, peut-être que le mot cirque, ils ne savent pas très bien quoi en faire. Très atypique. Et très atypique aussi dans ses manières d'intervenir, dans ses manières d'écrire, dans ses manières d'appréhender les relations publiques. Donc, l'espace public est un des terrains de jeu. Et donc, pour nous, vous savez, à Lieux Publics, quand on décide de faire un bout de chemin sur cette histoire de sirène, c'est aussi des fois un premier chemin. C'est aussi pour se rencontrer de plus près, pour voir ben voilà, cette écriture-là, quelle pertinence elle a dans l'espace public.
Sébastien, Julien, Christophe, une réaction ? Vous êtes d'accord avec cette présentation que vient de faire de vous à l'instant Pierre Sauvageau.
Au sujet du qualificatif atypique, oui, nous sommes d'accord, on le prend comme un compliment, merci. Et au sujet de la thématique du cirque, Pierre a bien senti que c'était une catégorie avec laquelle nous avions affaire, mais qui nous questionne autant que nous la questionnons. En fait, le GDRA se situe dans les interstices entre l'espace public, entre le cirque dit contemporain, mais aussi les arts forains qui peuvent parfois nous intéresser, qui ont côtoyé nos parcours. Et voilà, le GDRA est situé dans les interstices. Je pense que, comme Pierre l'a dit, le cirque contemporain, ou même le terme contemporain, sont des terminologies, sont des catégories, sont un peu des boîtes noires fermées, sont des étiquettes, sont devenues des étiquettes esthétiques, politiques, comme art de la rue ou art public est sans doute devenu une étiquette. Donc derrière toute étiquette, il y a un processus d'institutionnalisation, il y a des rapports humains, il y a des choses bien sûr extrêmement positives, il y a des choses vivantes, mais ce sont devenus en quelque sorte des boîtes noires et qui ont subi un terme, je vais employer un terme que les sociologues emploient souvent, l'artification. C'est-à-dire que c'était... Le cirque, par exemple, c'est une pratique qui vient certainement de l'espace forain. Guy pourra en parler bien mieux que moi. Les arts de la rue viennent vraiment de la rue. On a connu un canal historique des arts de la rue qui revendiquait une attitude presque punk dans la rue. Enfin, Pierre connaît cette histoire là aussi mieux que moi. J'en donne une lecture de mon point de vue.
Cette artification dont tu parles, tu la perçois comme positive ou négative ?
Alors, je pense que je ne me permets pas de jugement de valeur sur ce processus. Le hip-hop connaît actuellement une artification, enfin même depuis les années 80. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Je pense que ça pousse certaines personnes à la créativité. Ça donne à voir des œuvres. C'est du mouvement entre le savant, qui là aussi est une belle étiquette, et le populaire, qui là aussi est une belle étiquette. Autant d'étiquettes à questionner. Donc, et le mouvement, finalement, je pense que c'est pas en soi négatif. Donc ce sont des mouvements d'esthétique, de légitimation aussi culturelle, et c'est le mouvement. Donc oui, je pense que c'est positif.
Atypicité, comme le disait à l'instant Pierre Sauvageau, mais aussi singularité ordinaire dans votre cas. C'est quelque chose qu'on retrouve et qui est attaché à un de vos spectacles, je crois. Alors peut-être expliciter cette idée de singularité ordinaire.
Tout à fait. Et puis, enfin, sans monopoliser la parole, après il faudra vraiment me couper le
clapet.
La
passer après voilà, à Sébastien,
je la passerai,
à Julien.
Pour parler du GDRA, justement, et de ses interstices entre plusieurs esthétiques, je pense qu'il faut que rapidement parler de nos parcours. Donc mes amis pourront ensuite en parler eux-mêmes. Mais Sébastien vient en effet du texte dans la rue, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de boniments, c'est quelqu'un aussi qui a travaillé dans des compagnies de rue. Julien vient du Centre National des Arts du Cirque, avec une pratique de circassien qui a accompagné son parcours de vie depuis l'âge de 10 ans, même peut-être plus jeune, je crois, Julien. 11 ans, voilà. Et quant à moi, je viens des musiques actuelles, du rock, mais vraiment qui se pratiquait dans les garages. Et ensuite, j'ai eu un parcours d'anthropologie à l'université. Et c'est ce qui fait un peu le liant du GDRA, c'est ce regard des sciences humaines, mais placé dans le cadre du spectacle vivant. Donc on se confronte à l'espace scénique. Et pour nous, l'espace scénique, c'est un terrain de jeu, et il est multiforme. C'est-à-dire qu'on peut très bien, Singularités ordinaires est un spectacle dont tu parlais là à l'instant, jouer sur un plateau, qui joue sur des plateaux de théâtre, avec du texte, de la danse, de l'acrobatie, de la musique. Mais ce qu'on a pu faire aujourd'hui pour Sirène et Midinette, pour nous, c'est un terrain de jeu particulièrement intéressant et exploratoire. C'est-à-dire qu'on a essayé de développer notre regard influencé par l'ethnographie spontanée sur la place de l'Opéra en 7 minutes. Double contrainte, mais c'est particulièrement intéressant. Et pour nous, les terrains de jeu sont multiples et on a décidé de s'intéresser à plusieurs terrains de jeu. Si un jour, on a envie de faire quelque chose dans l'appartement privé d'une personne, on ne se privera pas de le faire si ça a du sens par rapport à l'écriture. Et si un jour, on a envie aussi de faire des restitutions dans un ascenseur avec un rapport intime entre un comédien et le public, on le fera. Après, on se plaît aussi sur les plateaux, parce que c'est un index d'écoute très particulier, le plateau théâtral, très ritualisé, et qui permet une certaine écoute qui nous plaît beaucoup aussi. Voilà.
Pierre Sauvageau, en deux mots, la place du cirque dans la programmation de lieux publics, c'est quelque chose qui vient souvent dans les croisements que tu proposes, ou c'est aujourd'hui une première ?
Il n'y a pas de quota, il n'y a pas une espèce de réflexion disant tiens, il faut 10% de cirque et tout ça. C'est vraiment pas la question. Moi, je suis vraiment persuadé que, comment dire, les arts de la rue ont perdu souvent cette pratique comme ça du corps, de la prouesse, d'espèce de rapport très immédiat à un public comme ça, à quelqu'un qui fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, et que je trouve ça extrêmement dommage, et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à gagner. À l'inverse, je pense aussi que le monde du cirque contemporain, qui a été une des aventures artistiques les plus passionnantes des 20 dernières années, c'est vrai qu'on prend depuis 20 ans, ça fait partie des grands courants artistiques qui sont nés, et en même temps, voilà, a développé un certain type d'écriture, et en même temps a perdu probablement un type de rapport, à la fois un type de public, et puis un type de contexte urbain, et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup à fabriquer. Donc c'est un travail en mouvement. Moi, j'y tiens beaucoup, je suis très sensible à ça. Je vois bien qu'en même temps, c'est quelque chose de relativement pas si simple. Il n'y a pas immédiatement des artistes du cirque qui ont envie de se refrotter à l'espace public. Hein, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de mettre des artistes dehors. Il s'agit bien que des écritures soient dédiées à un espace urbain, ce qui n'a rien à voir. Et on dit partout, on est preneur, et somme toute, on n'a pas tant de retours que ça.
Alors, moi, je voulais revenir, en fait, sur cette caractéristique de votre compagnie, le GDRA, c'est-à-dire cette façon de mêler le cirque avec le théâtre ou la vidéo, mais aussi avec les sciences humaines, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Et alors, effectivement, il y a vos parcours respectifs, dont le tien, Christophe, qui est passé par le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales.
C'est ça.
Et alors, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans vos spectacles, notamment là, le singularité ordinaire, comment ça se passe dans peut-être la collecte de témoignages, d'histoires individuelles ou collectives? Comment vous procédez?
Écoute, dans tout ce que nous faisons, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le thème, c'est le récit, c'est raconter quelque chose. Et notamment, raconter quelque chose qui est lié à l'ordinaire. Mais l'ordinaire, c'est souvent déjà extraordinaire si on prend le temps de poser le regard sur le quotidien. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse, raconter des histoires. Et là, une fois de plus, que ce soit sur un plateau, dans l'espace public, sous un chapiteau, peu importe. Nous, c'est le récit qui nous intéresse. Donc on s'intéresse aussi aux contes et à la philosophie, mais aussi à comment une maman raconte une histoire à son petit garçon le soir pour l'endormir. C'est l'histoire, c'est le récit qui nous intéresse. Donc l'écriture, et cette écriture, elle est toujours basée sur une observation du quotidien. Et une autre de nos passions, c'est le portrait. Et quand je dis portrait, c'est le portrait d'une personne, mais ça peut être aussi un portrait très subjectif d'un territoire. Donc voilà deux axes de nos travaux, le portrait de personne et le portrait de territoire. Singularités ordinaires, ce sont trois portraits de personnes qui n'ont absolument rien à voir, a priori, entre elles, à savoir une danseuse classique qui a créé la danse postmoderne en France, qui s'appelle Wilfried Piolet, qui était en même temps danseuse à l'Opéra de Paris, danseuse étoile. Michèle Eclounaté, qui est une femme de ménage dans les quartiers nord de Marseille. D'ailleurs, si elle écoute l'émission, on t'embrasse, Michèle. Et troisième personne, Arthur Ginibre, un paysan du Rouergue, ma région d'origine, qui est musicien et guérisseur. Trois personnes qui questionnent trois catégories bien convenues, à savoir le classicisme, le populaire, 40 guillemets, et le traditionnel ou le folklorique, 40 guillemets. Et donc, nous avons collecté ces personnes, parfois sur des temps très longs. Michèle Eclounaté, ça a été 2 ans et demi de relation. Collecter, c'est enregistrer, filmer, noter au carnet, c'est vivre avec. Et ensuite, nous avons décidé de les médier, de les raconter là, sur un plateau, puisque c'est...
Et alors justement, là, comment ça se passe à partir de cette matière brute humaine, ouais. La restitution, est-ce que vous privilégiez une restitution, une matière assez brute, ou alors est-ce que la réécriture passe par la théâtralité
Il y a deux choses. Il y a une matière que l'on laisse brute, ce sont les images. Nous, on n'aime pas toucher les images. On a un rapport très documentaire à l'image. Et ici, on est dans une maison de radio, le son. On adore la radiophonie, restituer le son. Le son ordinaire, pour nous, est déjà une construction. Donc là, ce sont des matériaux bruts. Donc, dans ce spectacle, il y a des extraits d'images et des extraits de son. Mais Sébastien, qui joue la plupart des rôles de cette théâtralité, mais très fragmentée, vient parfois jouer un anthropologue commentant le parcours de vie d'Arthur Ginibre. Vient parfois jouer Michèle Eclounaté. Pour dire un texte au plateau en y mettant le poids de l'émotion d'un acteur. Sébastien, Julien incarne par le corps le parcours chaotique d'Arthur Ginibre. Je viens chanter des chansons qui sont comme des odes à nos trois personnages. Donc finalement, c'est un spectacle, je n'aime pas trop le terme, mais intermédiaire, pluridisciplinaire, enfin voilà. Je le redis une fois de plus, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire et le récit. Après, on fait feu de tout bois. Toutes les disciplines artistiques potentiellement peuvent nous intéresser, parfois avec beaucoup de maladresse, parce que, par exemple, on s'intéresse actuellement à la muséographie, mais on n'est pas de grands scénographes ou des muséographes. On le fait à notre façon. Donc, il y a certainement beaucoup de maladresse, mais toutes les disciplines artistiques, a priori, peuvent nous intéresser. D'une bourrée auvergnate, en passant par la radiophonie d'un parent Owen, ou en passant par le documentaire d'un Depardon. Ça peut vraiment, vraiment nous intéresser. On essaie de faire feu de tout bois, sachant que ce qui nous intéresse, c'est raconter des histoires. Aujourd'hui, de façon maladroite, parce que la contrainte de Pierre, quoique très intéressante, est une vraie contrainte qui, j'espère, stimule à la créativité, comme une contrainte oulipienne, en 7 minutes, on a essayé de raconter un peu les attachements d'une personne qu'on a rencontrée à Marseille, Raoul Icard, et qui est expert de la ville. C'est grâce à lui, en fait, que les sirènes sonnent. 7 minutes, c'est très court, mais on a quand même essayé de restituer une tranche de vie. Et là, pour le coup, on a fait un choix parmi nos disciplines. On a fait quelque chose d'un peu moins intermédiaire. On est allé vers la muséographie en présentant des objets de Raoul Icard. Et c'est Sébastien qui s'est fait le médiateur en jouant le rôle d'un anthropologue spontané, ludique, qui s'est fait le médiateur un peu des objets de Raoul Icard, qui raconte aussi les attachements de Raoul Icard lui-même.
C'est comme ça aussi qu'on dépasse l'anecdote de ces petits moments d'instant de vie, qu'on dépasse le pur anecdotique pour arriver vers un récit et une narration peut-être plus universelle et qui peut toucher les gens de plus près. Ouais.
Exactement. Alors aujourd'hui, pour Sirène et Midinette, la contrainte des 7 minutes nous intéresse vraiment. Mais c'est vrai que nous aimons le temps long. D'ailleurs, on a mis quand même 3 semaines et demie pour préparer ces 7 minutes. Parce qu'il a fallu rencontrer Raoul, passer du temps avec lui, manger avec lui, négocier le prêt d'objet avec lui, essayer d'en savoir un peu plus avec lui, car c'est quelqu'un de réservé, de timide. Pour Singularité Ordinaire, il y a un temps. Et j'espère, dans l'écriture, il y a quelque chose, en effet, qui fait que de 3 singularités, on touche à quelque chose de plus universel. De toute façon, en anthropologie, on dit que quand on rapproche la focale sur une personne, à force de la rapprocher, on va toucher quelque chose d'essentiel et d'universel.
Est-ce que vous avez eu des retours de chercheurs sur vos créations ?
Alors moi, j'ai des retours de chercheurs sur mon parcours et sur mes intérêts vers le spectacle vivant. Ils sont plutôt méfiants, les chercheurs, méfiants, voilà, pour le moment. Et on n'a pas eu...
Pourquoi ?
Ils sont méfiants parce que la parole universitaire, et Dieu sait que j'ai beaucoup de respect pour les laboratoires dans lesquels j'ai été formé ou déformé, je ne sais pas. Mais la parole universitaire a parfois du mal à sortir de son sérail. Ça dépend là aussi des laboratoires, il ne faut pas généraliser. L'école des hautes études en sciences sociales, c'est une institution très, très ouverte. Mais vouloir faire de l'anthropologie avec des clowns ou dans la rue, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sachant que nous, on n'a pas grande prétention et vis-à-vis du spectacle vivant et vis-à-vis de l'anthropologie. On essaie juste de marier un petit peu maladroitement, mais avec beaucoup de sincérité et d'amour, les choses. Donc, on ne pense pas révolutionner ni les sciences humaines, ni le spectacle vivant, loin de là. On s'aime, on est 3 amis, on essaie de vivre ensemble. Il y en a un qui vient du cirque, il y en a un qui vient de la musique et des sciences humaines, il y en a un qui vient du théâtre de rue. Donc, on essaie de marier nos intérêts, tout simplement.
À l'instant, Christophe Ruy évoquait la pluridisciplinarité comme étant un élément essentiel du travail de la compagnie GDRA, une pluridisciplinarité qu'on retrouve maintenant dans de très nombreux domaines des arts. Peut-être le corollaire de ça, et c'est quelque chose qui rapproche la pratique circassienne de la pratique de l'ensemble des arts de la rue, pour le coup on essaye ce soir d'essayer d'observer comment le cirque se croise avec les arts de rue, c'est la collégialité dans la création. Alors peut-être, Sébastien, comment ça fonctionne dans votre trio pour la création et la création des spectacles ?
Mais je vais vous décevoir parce que c'est pas du tout collégial. Non, je plaisante. Après, c'est Christophe a beaucoup, ça s'entend, et c'est évident, insufflé dans l'écriture de ce projet de Singularité Ordinaire. Après, ce qu'il amène lui avec ce background ethnologique, anthropologique, c'est aussi, alors c'est un langage, c'est un monde, pour Christophe, c'est des années d'études, donc c'est une spécialité vraiment. Après, ce qui nous réunit, c'est ça qui est drôle aussi, qui fait que du coup, ce sont des mots anthropologie pour qui, comme moi, n'était pas forcément habitué à ces lectures ou à ces pratiques, qui font de moins en moins peur quand on côtoie des gens qui sont dans ces démarches-là. C'est que finalement, c'est poser un regard sur des gens, un regard curieux que Julien et moi, il se trouve qu'on pose à peu près tous les jours aussi quand on rencontre des gens, Et Pierre Sauvageau, on est un peu fasciné par le personnage. Des Guy Carrara, c'est presque pire, mais c'est des gens qui non, mais voilà, c'est comme ça qu'on partage une curiosité, un regard. Après, Christophe, lui, a ce talent de l'écriture, de la mise en forme d'idées qui fusent dans tous les sens. Alors, collégial, le point de départ, effectivement, de dire que nous, on s'est pas dit, on va faire un projet qui doit être pluridisciplinaire. On s'est rencontrés tous les trois comme dans un bac à sable, vraiment, comme une espèce de bande, parfois d'espèce de chien fou. Vous nous verriez dans votre intimité, vous ne miseriez pas un copec sur l'avenir de nos projets artistiques. Mais c'est vrai que c'est ça. Et après, c'est de ces trois énergies et matières vivantes qu'on fait après un spectacle qui devient de fait très mélangé. Après, collégial, oui, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble. Christophe fait beaucoup sur l'écriture. Julien, c'est un drôle de parcours. Julien, sur le premier spectacle, qui est tout un agrès scénographique, quand même assez imposant. Il a construit le prototype dans sa cuisine avec son père, là-bas au sud de Toulouse, sur les coteaux. Après, moi, j'ai construit avec un ami qui est constructeur. Alors que moi, je suis comédien, je me suis mis à faire les soudures pour construire la structure. Après, on s'est retrouvé en résidence au Créac où Julien apprenait à faire marcher une console de lumière, ce qu'il n'avait jamais fait pendant que Christophe était en train d'écrire et que moi j'apprenais des textes. Donc il y a vraiment un fonctionnement collégial. Ce qui est sûr, c'est qu'on a été sur cette première création, en tout cas, on a travaillé en tout cas sans regard extérieur, sans metteur en scène, jusqu'à la toute dernière partie du processus où on a eu besoin. Alors est-ce qu'on a eu peur à un moment, parce que ça suppose aussi trois caractères, trois égos, trois affects qui doivent aussi s'entendre. Et se reconnaître mutuellement, se magnifier mutuellement, mais du coup c'est aussi forcément des moments d'interaction humaine qui sont parfois complexes. Donc on s'est attribué l'aide de deux personnes à la fin qui nous ont aidé à mettre un peu de clarté dans ce qu'on faisait, faire des choix, surtout arbitrer des choses qu'on n'arrivait pas à faire, mais en amenant toute la matière au préalable. Là on repart sur notre création qui devrait voir le jour en 2010 normalement, et on se pose encore ces questions de comment travailler, que Christophe sort du plateau pour avoir plus ce rôle de conception d'écriture qui nous laisse à nous, Julien et moi, plus un travail au plateau à assumer plus franchement, puis lui qui va être plus dégagé de ça. Est-ce qu'on va travailler avec un metteur en scène? Est-ce qu'une vieille comédienne belge, un de ses amis chercheurs ou le voisin de Julien qui pourrait nous dire si on veut parler de la ruralité du sud-ouest, comment on est juste ou comment on l'est pas? On sait pas encore. Mais bon, on n'est pas en tout cas dans le schéma classique que moi je critique pas du tout et qui parfois m'a même manqué dans cette création, mais pas au point de le regretter ou de partir faire du théâtre aujourd'hui. En tout cas, ce schéma d'avoir trois interprètes au service d'un metteur en scène, d'une metteur en scène, d'un projet, d'un auteur. Il n'y a pas d'auteur non plus au sens auteur de théâtre. C'est nous qui avons écrit ce spectacle. Donc voilà, c'est très collégial.
Guy Carrara, peut-être une réaction sur cette pratique de la collégialité, sur le fait qu'aujourd'hui, de nombreux artistes de cirque soient en groupe au travers du CREAC que vous dirigez. Vous voyez ça comment?
Bon, d'abord, je voudrais dire que j'apprécie particulièrement ces conteurs des temps modernes qui essayent de marier ensemble des personnalités et des spécialités extrêmement différentes, des spécificités différentes. Et j'aime les singularités et j'aime que vous mettiez l'ordinaire en extraordinaire et en spectacle. Donc tout ça fait que votre démarche, dans la tentative d'une dramaturgie avec des constituants difficiles, ressemble beaucoup aux arts du cirque depuis les temps romains, etc. Régulièrement, le cirque rassemble comme ça en son cœur des disciplines de l'époque, du moment, pour essayer de faire quelque chose, en tout cas du spectaculaire, et puis parfois de raconter des histoires. Alors, suivant les époques, les récits sont différents. Je ne sais pas, au début du siècle, il y avait des spectacles qui se montaient sur le colonialisme, sur des choses comme ça, hein, dans les cirques traditionnels. Alors aujourd'hui, effectivement, ce que tu disais, Pierre, le cirque a vraiment vécu une grande révolution. Enfin, ça a été un des arts qui a vécu la plus grande révolution sur ces 20 dernières années, en tout cas, la plus grande progression aussi. Et donc, c'est pas étonnant que des gens comme vous se revendiquent du cirque, parce que il y a effectivement 15 ans ou 20 ans, vous vous seriez revendiqué du cirque. On aurait dit oui, mais bon, c'est quoi ces discours, tout ça, ces mélanges. Or, aujourd'hui, du moment qu'il y a une discipline de cirque à l'intérieur de votre démarche et que vous vous revendiquiez du cirque, vous êtes les bienvenus au cirque, comme depuis des siècles, hein.
Guy, puisqu'on est ce soir à essayer d'interroger les rapports entre le cirque et les pratiques de l'art dans l'espace public, est-ce que dans la pratique des arts circassiens, la piste est un espace différent de l'espace de la rue?
Alors, moi je suis un défendeur de l'espace indéterminé pour les arts du cirque, hein, donc... Pour moi, justement, le cirque a cette faculté d'appréhender n'importe quel espace scénographique et de le construire, de le matérialiser, puisque les techniques de cirque font que l'on voyage dans les trois dimensions, les quatre dimensions, je ne sais pas. Et pour moi, l'artiste de cirque qui dit « je veux faire du cirque sur la Lune », je trouve ça génial, ou sous la mer, ou devant l'opéra, je trouve ça tout à fait naturel et normal. Donc je ne suis pas du tout un... Je fais partie de ceux qui disent le cirque, c'est celui que je fais. Non, le cirque, pour moi, c'est celui que tu fais. Fais-moi des propositions, elles sont formidables. pourvu qu'elle soit différente. Alors effectivement, l'espace public peut présenter tellement de richesses, de propositions d'espace que c'en est épatant.
Christophe, Sébastien, votre perception, vous, de cet espace public, la piste, l'espace public, sont vraiment deux espaces différents à parcourir, à pratiquer?
Pour rebondir sur ce que vient de dire Guy, je pense que tout dépend de l'intentionnalité des artistes ou de l'acteur, en fait. On peut définir une activité quelconque avec un regard extérieur, exogène, qui va poser une étiquette sur quelque chose qu'il voit. Ah tiens, cet homme est en train de pêcher. Mais en fait, cet homme, dans son intention, il est peut-être en train, je ne sais pas moi, de compter des poissons parce qu'il collectionne divers types de poissons, donc il est en train de collectionner, selon lui. Eh bien là, il y a diverses postures. Soit on accepte l'intentionnalité de l'acteur, donc celui qui dit « je fais du cirque ». Et pourtant, regardez, là actuellement, je suis dans la rue sur une structure métallique avec un écran vidéo derrière. Ben, peut-être que réellement il fait du cirque. Et celui qui je ne sais pas moi, dans un amphithéâtre universitaire, par exemple. Et cet amphithéâtre, il a décidé d'installer une installation, justement, sonore, par exemple, dans cet amphithéâtre. Et il décide que cet amphithéâtre, ben, c'est l'espace public, puisqu'il dépend des deniers publics. Donc il dit, voilà, moi je suis à l'intérieur, je suis dans un amphithéâtre, j'ai mis une installation sonore, mais finalement, je suis avec le public, dans le public, tiens, ben, je suis un artiste de rue, enfin pas de rue, mais un artiste de l'espace public. Que peut-on faire à l'écouter? Moi, j'ai bien envie de respecter l'intentionnalité des acteurs. Alors parfois, notamment en ce qui concerne le GDRA, et c'est là que les choses se compliquent, c'est que l'intentionnalité, elle est brouillée et brouillonne. On ne sait pas trop. Mais bon, ce sont des objets interstitiels et ça existe aussi.
Vive les interstices! Je vous propose qu'on fasse maintenant un petit interstice musical dans le parcours de cette émission. Quelques minutes avec Baptiste Alena.
Calcul, projet, nombre, logarithme, le rêve précis de l'esprit. Venez, venez, petit poisson, vous êtes grillé sur votre poêle volante. Je suis l'épingle qui tient le tissu noir. Je suis l'étoile qui brille à vos dépenses. L'ardeur qui vous met, vous abîme. Venez, venez, communiste, astronaute. Nourri d'illusions, ivrogne, artiste, votre voyage vous donne du piment. Vous êtes meilleur quand vous êtes perdu.
De la piste et rompt avec cette scène circulaire, il peut s'ouvrir à la performance. Alors, c'est ce qui s'est passé donc, à midi aujourd'hui, avec le GDRA sur le parvis de l'Opéra. Qu'est-ce qui, là, dans cette forme d'intervention artistique dans l'espace public, vous plaît? Et alors, pour vous, en plus, qui jouez par ailleurs donc, dans des salles plus classiques de théâtre?
Alors, pour être pas très honnête, mais pour rectifier pour ceux peut-être qui, parmi les auditeurs nombreux qui doivent être à l'écoute en ce moment, qui peut-être n'étaient pas ce matin parmi le public nombreux qui était présent à midi sur la place de l'Opéra, sachez que ce matin, nous n'avons pas fait de cirque du tout. Parce que du coup, on en avait annoncé qu'il y aurait peut-être du mouvement, mais ce sont les textes qu'on écrit, c'est une commande, c'est le jeu aussi, 6 mois avant de prendre un texte pour Sirène, et puis après, de façon pragmatique, de se mettre au boulot, de voir ce qui va en sortir. Mais par contre, ce qu'on a testé ce matin, qu'on n'avait jamais vécu avec le GDRA, c'était une modeste installation muséographique, donc, puisque pour préciser un peu, il y avait 8 socles placés sur le pourtour d'un espace carré blanc de 12 mètres par 12, posé devant le parvis de l'Opéra, et des socles sur lesquels étaient posés des objets, donc de ce monsieur Icard, une bouteille de plongée, une lettre qu'il a photocopiée aux archives de la mairie de Marseille, d'un monsieur qui se plaignait qu'il y a 30 ou 40 ans, la sirène en campagne faisait mourir ses poules de terreur. Il y avait donc une poule morte posée sur un de ses socles. Il y avait des petits objets à monsieur Icard, et donc le jeu de Sirène et Midinette, c'est d'intervenir entre midi et midi 12, enfin plus précisément entre midi 2 et midi 10, puisque les sirènes durent presque 2 minutes. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'au-delà du blabla, pour le coup, qu'on a posé entre ces deux sirènes, qui était en fait là une évocation des objets pour parler de monsieur I, en disant aussi que monsieur Icard, qu'on appelait monsieur I, puisqu'il était anonymé dans une première partie de présentation, nous avait parlé beaucoup, mais pas vraiment de ce qu'on aurait aimé savoir au début sur sa famille, ses parents, le parcours de la famille. C'est des choses qu'il n'a pas voulu raconter, et évidemment, il fait absolument ce qu'il veut. Et encore une fois, en 3 semaines, c'est difficile aussi de demander à quelqu'un devant un micro de confier son intimité. Donc du coup, raconter ses objets, façon de parler de lui, de ses attachements, puis aussi façon de parler de ce petit refus qu'il nous avait présenté. Du coup, ces objets venaient aussi un peu noyer le poisson des histoires plus intimes qu'on aurait aimé connaître. Mais c'était une belle relation. Pour le coup, ce que je voulais vous dire, c'est que ce petit musée, il était là une petite heure avant, puis il est resté 2 heures après parce qu'on l'a pas démonté pendant qu'on allait manger. Donc du coup, on est revenu après, puis on voyait plein de gens qui passaient, qui évidemment s'arrêtaient. On passe devant le parvis de l'Opéra, il y a un socle blanc, un petit panneau joli dessus, avec un petit mot qui explique que cette poule est morte en octobre 77 suite au déclenchement d'une sirène. Des gens qui n'avaient pas vu la sirène du midi, donc ils ne sont pas au courant du rituel de folklore urbain, pour reprendre des termes employés par le public et Pierre. Donc c'est rigolo de voir ces gens. Donc nous, on rêve depuis longtemps de poser des musées un peu partout. Là, on s'excite beaucoup à travers ces musées qui ne sont pas figés, qui sont des musées d'action. Ces objets, ensuite, ils repartent pas dans des boîtes au fond d'un musée, ils repartent dans la vie des gens.
Vous aviez déjà réalisé ce type d'intervention
public, pour le coup, jamais. Donc là, c'est marrant de voir quelqu'un qui sort du boulot à midi et quart, qui passe devant, qui ne sait pas du tout ce qui s'est passé, et puis qui s'arrête en voyant cette poule morte, cette bouteille de plongée, ce petit objet que monsieur Icard avait prêté. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup plus midi, qui nous excite beaucoup, et qu'on va peut-être du coup qu'on va pousser un peu plus avant pour voir si on n'a pas d'autre façon d'investir cet espace public. Alors Christophe répond à juste titre que les définitions d'espace public, elles sont aussi mouvantes, et puis elles ont toutes les limites qu'ont les définitions. Mais moi qui ai aussi mis frotte depuis des années, je dois quand même redire une fois le plaisir que c'est tout de même d'investir parfois des places publiques, pour le coup, en extérieur, dans des endroits où les gens circulent librement, entre guillemets, et de voir des gens qui deviennent des spectateurs alors qu'un quart d'heure encore avant, ils ne savaient pas qu'ils auraient cette possibilité dans leur journée. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans l'espace public, qui arrivent moins souvent dans un théâtre, mais qui n'enlèvent rien à la qualité de la rencontre et de l'échange avec un public de théâtre. C'est ça qu'on veut surtout expliquer.
Alors Guy Carrara, également sur cette notion de performance, est-ce qu'il vous arrivait de mettre en scène, en espace public, justement, des créations?
Oui, ça m'est arrivé, j'en ai fait au travers des temps, mais j'ai eu l'occasion surtout de faire une sirène et midinette sur la proposition de Pierre Sauvageau. Et je suis comme vous, je trouve que l'exercice, la contrainte de ce temps très court est vraiment très 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 intéressant. Comment arriver à monter une dramaturgie un peu dense sur un temps aussi court, je trouve ça formidable pour les artistes. Et bravo Pierre d'avoir fait cette proposition, vraiment sincèrement, elle est très intéressante.
Et pour rebondir là-dessus, moi je commençais à me dire que c'était plus intéressant encore pour d'abord les gens qui voient plusieurs sirènes, et pour l'équipe de lieux publics, c'est sûrement pour eux que, enfin je ne veux pas dire que vous faites ça pour faire plaisir, hein, surtout pas, mais c'est sûrement votre place d'observateur privilégié qui avait vu les 60 sirènes en gros qui sont faites depuis 5 ans, c'est vraiment une place qui doit être agréable pour voir comment chacun réagit à la contrainte. Pour quelqu'un qui arrive, je crois qu'il n'est pas au courant du rituel, donc qui n'est pas encore dans le jeu du rituel, mais qui va peut-être le devenir ou qui va le rester parce qu'il va comprendre que c'est pérenne et que c'est un rendez-vous régulier. Et qui a jamais vu ce qui se passe, peut-être c'est difficile de comprendre. Moi j'ai pas vu les autres sirènes, mais je pense quand même que cette contrainte elle est extrêmement difficile, et que raconter une histoire en 7 minutes c'est difficile. En même temps un clip à la télévision c'est 4 minutes, et parfois il y a un début, un milieu, une fin. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment les gens déclinent ça, du coup cette place d'observer ces sirènes dans le temps.
Ça va être intéressant.
Et alors sur cette idée de performance, il y a un autre sens à ce mot qui est là le côté extrême et goût du risque, un peu qu'on retrouve dans le cirque de façon assez forte, notamment sur le corps circassien. Alors là, est-ce que qui veut prendre la parole là-dessus ?
Tout le monde insiste absolument pour que Julien dise un mot, juste un mot, sur cette notion de prise de risque, justement, de performance très présente dans le cirque.
Dans le cirque, oui. Déjà pour parler un peu de encore ce qu'on a fait à midi, ce que Sébastien en particulier a fait, il y avait aussi une forme de performance dans la façon dont il parle. Voilà.
La prise de risque, ça n'engage pas uniquement le corps. Hein, c'est aussi la prise de parole est d'une prise de risque.
Déjà, et enfin, voilà, oui, tout à fait.
D'un côté, ce côté spectaculaire du cirque qui a pu être présent longtemps paraît moins fondamental à tout prix. Et puis, en même temps, on s'aperçoit qu'il reste, qu'il est difficile de l'effacer complètement. Que voilà, il y a toujours un peu ce corps idéalisé et un corps qui peut souffrir aussi. Enfin, il y a quelque chose d'assez sur cette idée de performance, quelque chose d'assez fort dans le cirque, non ?
Si.
Et qui donne aussi son caractère merveilleux parfois à ce spectacle.
Enfin, dans toute gestuelle artistique, je pense qu'il y a une forme de performativité. Pour reprendre un terme de linguistique, excusez-moi, mais bon, c'est comme si on parlait de mécanique, c'est pareil, il faut se détendre, ou de football, c'est exactement pareil, ou de rugby. Donc Austin a écrit un livre, Quand dire, c'est faire. Donc il y a une forme de performativité derrière toute gestuelle. Alors c'est vrai qu'on parle souvent du cirque comme, en faisant du cirque, un art qui serait l'apologie du risque, mais un comédien qui se lance dans un texte sur le fil du rasoir, il y a une forme à la fois de performance et de performativité. Performativité, c'est voilà, là je fais, je dis, je prouve quelque chose. Alors après, c'est vrai qu'il y a certainement dans le cirque et dans tous les arts du corps une efficace. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait que peut-être d'ailleurs, nous tous, observateurs, critiques, on dit waouh, quelle performance! Ben c'est que le corps, il y a l'immédiateté du corps, de l'engagement, c'est vraiment charnel. Mais là aussi, nous en tout cas, de notre point de vue au GDRA, on n'a pas envie de séparer la performativité du corps de la performativité du langage ou de la note musicale. Un musicien, il y a des musiciens qui jouent énormément sur une note, qui engagent leur corps d'abord, c'est quand même un art de l'engagement du corps par exemple la musique, mais qui engagent plus que ça, qui engagent une réflexion, il y a une performativité dans l'acte musical, il y a une performativité dans l'acte sonore. Il est vrai que dans les arts du corps, il y a un engagement direct du corps, mais le comédien engage son corps aussi. Donc finalement, là aussi c'est une catégorie performance, performativité que je trouve intéressante à questionner. Je me rappelle avoir travaillé pendant 2 ans avec une compagnie qui s'appelait Kamikaze. Et là on pouvait vraiment parler de performance corporelle puisque John Kamikaze se transperçait le corps. Mais finalement quand je vois Sébastien se lancer dans un locus soli interminable de 10 minutes et que je vois que la sueur perle sur son front et que son corps finit par s'engager, je trouve qu'entre lui et John, il y a une forme de performativité et une performance qui est, ma foi, somme toute, comparable.
Guy Carrara, sur la performance et le risque.
Oui, donc il se trouve que dans de nombreuses disciplines de cirque, en fait, il y a on risque son intégrité physique. Donc c'est ça, en fait.
Risque de mort, hein, concrètement.
Oui, voilà, on joue avec la mort, on joue avec ses limites, et ça existe. Donc effectivement, après, c'est quelque chose qu'on utilise plus ou moins et qu'on domine plus ou moins, d'ailleurs. Et plus on le domine, mieux c'est, n'est-ce pas ? Puisqu'on n'est pas là pour se faire du mal. Mais néanmoins, cette prise de risque, surtout pour son intégrité physique, joue sur la psychologie donc, des artistes de cirque. Et c'est vrai que pour moi, avoir travaillé avec tous les artistes, donc les comédiens, les danseurs, etc., les peintres et les circassiens, je sais qu'il y a une psychologie du groupe d'artistes pratiquant le cirque qui est particulière. Il y a forcément, au niveau de l'inconscient, une forte solidarité quand on joue. Il y a une simplicité des rapports, même si on ne s'aime pas par ailleurs. Quand on est sur le plateau, il y a quelque chose d'un peu supérieur qui se passe, hein, en général, hein, bien entendu. voilà, c'est la différence que je pourrais faire, c'est cette notion-là. Mais après, effectivement, je suis d'accord sur le sur la prise de risque de l'art, que l'artiste doit de toute façon avoir sur chacune de ses interventions. Et Sébastien, même quand il part beaucoup, lui risque peut-être l'intégrité de son esprit.
Ça, c'est possible.
Celle de, surtout de celle des gens qui écoutent. Mais après, oui, mais on peut. Enfin, bien sûr, tout ça, c'est des prises de risque. Mais bon, l'autre jour, on jouait, Julien a failli toucher le trempeau avec sa tête en. Parce qu'il répète pas assez, hein, très clairement. Non, je plaisante. Non, parce que ça avait bougé et du coup, c'est vrai qu'à ces moments-là, on se dit bon, ben voilà, mais au pire, je risque, au pire, de me griller, mais pas plus que ça. Il y a un moment dans le spectacle qu'on fait, Singularité ordinaire, qu'on jouera à Alès et à Arles au mois de janvier. Donc, on vous le dit parce que c'est dans la région. On joue pas souvent dans la région. Où Julien incarne les Wilfried Piolet, donc sans évidemment prendre une voix de femme ni s'habiller comme elle, et redit un texte, des mots qu'elle nous a dit où elle parle de souffrance. Avec Merce Cunningham, elle échange sur leurs souvenirs de tournée au Japon quand elle avait les pieds fendus dans ses chaussons et qu'elle devait tenir pour le spectacle et qu'elle a l'impression que le sol allait s'écrouler, et puis que finalement, une fois sur scène, tout s'anesthésie, etc. Et c'est Julien, du coup, qui est dans une performance performative de langage et de parole qui n'est pas a priori son outil. Premier, mais pourtant Julien dans ce spectacle parle aussi, et c'est Julien qui reprend ses mots, et ça vibre complètement avec son parcours de circassien du CNAC, de l'école de cirque, où il se faisait mal partout et qu'il fallait qu'il continue. Moi, j'ai jamais connu ça. Après, quand moi je joue et que je prends un gros bide ou un gros râteau et qu'il faut recommencer 2 heures après, ça, c'est un peu douloureux aussi, mais voilà, on essaye que ce soit de moins en moins souvent.
Le corollaire de cette notion de risque, c'est ce à quoi il se confronte dans l'espace public, et ce sont ces règlements qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui. Pierre Sauvageau, il y a quelques jours, Small is Beautiful, occupait les escaliers de la gare Saint-Charles. Alors, il n'y a peut-être pas de risque d'intégrité physique sur les performants, quoique sur les performances qui y étaient proposées. Mais en tout cas, vous vous confrontez régulièrement avec le public à cette nécessité d'obtenir les autorisations réglementaires. Est-ce que ça n'est pas aujourd'hui, que ce soit pour le cirque ou d'autres pratiques artistiques dans l'espace public, de plus en plus contraignant? Pierre Sauvage.
Oui, de toute façon, on est dans un pays où l'espace public diminue, où se privatise. D'ailleurs,
où le droit au risque diminue.
Le droit au risque aussi, absolument. C'est-à-dire que les règlements de sécurité, donc c'est à la fois une grande avancée et un grand recul. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on faisait il y a 20 ans qu'on n'a plus le droit de faire. Et à la fois, c'est bien, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de mettre qui que ce soit en péril. Et à la fois, on voit bien qu'artistiquement, il y a des limites que nous n'avions pas. Donc on a cette contrainte qui est très particulière. En l'occurrence, pour ce qui est de... D'abord, je pense que les artistes ont su jouer avec. Par exemple, dans l'Odyssée, donc l'opéra urbain que j'ai écrit, que je dirige, il y a un personnage qui est un acrobate qui grimpe, hein, donc il finit des ascensions absolument exceptionnelles, c'est pas Antoine Le Ménestrel. Et en fait, il est assuré du début à la fin par un autre, d'ailleurs, acrobate lui-même extrêmement compétent. Et ça fait partie de la règle du jeu. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, le public le voit, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... c'est pas caché. Je veux dire que et ça n'enlève rien à la beauté de la prouesse, voire ça la rendrait même plus intéressante, le fait que oui, il y a une sécurité, oui, il y a quelqu'un qui le tient, et s'il tombe, non, il ne se tue pas. Et à vrai dire, je pense que si il risquait de tomber et de se tuer, j'aurais pas mis cette image dans le spectacle, parce qu'elle aurait emmené sur autre chose. Et là, le personnage devient artistique et magique, parce que c'est sa prouesse artistique qu'on voit, et non pas le fait, on joue à la fois fête foraine, quand est-ce qu'il meurt, quand est-ce qu'il meurt, quand est-ce qu'il tombe. Je veux dire, c'est plutôt malsain, l'idée que le public soit là, dire, alors, quand est-ce qu'il se casse la gueule, quand est-ce qu'il se casse la gueule. J'ai pas du tout envie que le public se dise ça. En tout cas, j'ai envie de se dire, putain, ce type-là, avec ses mains, il monte en haut d'une cathédrale à 50 mètres, et tout d'un coup, il n'est pas simplement justement quelqu'un qui fait une prouesse, mais c'est un acteur qui joue un personnage, qui joue un rôle. Ça raconte l'histoire d'Ulysse, etc. Donc c'est une métaphore sur le retour d'Ulysse dans sa patrie, etc. Et tout d'un coup, il y a une vraie poésie, et la prouesse n'est pas jouée pour elle-même, elle est jouée parce qu'elle a un sens. Et donc, la contrainte, bien sûr, les réglementations sont de plus en plus dures, les espaces sont de moins en moins publics, c'est compliqué. Mais par ailleurs, je pense que c'est aussi aux artistes de trouver les solutions, parce que les solutions ne sont jamais techniques, elles sont toujours aussi artistiques.
Christophe Ruy, une réaction ?
Non, c'était au sujet de la notion de risque qui nous passionne et dont on parle depuis longtemps dans notre parcours au GDRA, parce que sur une création antérieure, on travaillait avec un collectif de bascule, donc des personnes qui s'envoient à 9 mètres de haut. Il y a aussi cette idée que le risque est très difficile à mettre en scène. Et c'est peut-être une façon justement de désamorcer le risque du risque que de montrer, que de rassurer au sujet du risque. Parce que finalement, l'acte circassien est tellement beau en soi, la mise justement en risque du corps et de la vie, qu'il est parfois très difficile d'écrire une histoire avec ça qui soit à la hauteur de cet acte simple et évident. Et c'est pour ça aussi que le cirque dit traditionnel, moi je fonds. Voilà, quand je vois quelqu'un qui, tout simplement, sans prétention narrative, dans un numéro, met son corps en scène jusqu'au bout. Et là, c'est vrai que c'est particulièrement touchant.
Je voudrais qu'on aborde maintenant la question de la formation, de la transmission d'une génération à l'autre dans ces pratiques performatives du cirque dans l'espace public ou du cirque traditionnel. Longtemps, cette transmission s'est opérée de personne à personne, à l'intérieur d'un cirque, à l'intérieur d'une famille même. Et aujourd'hui, on voit apparaître des écoles, on voit apparaître des lieux de formation. Alors, est-ce que ces lieux intègrent cette dimension de pluridisciplinarité dont on a parlé au début de cette émission, cette ouverture entre des genres et des formes différentes? Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être Guy Carrara, sur la question de transmission et sur la manière dont elle s'opère aujourd'hui dans les écoles, précisément oui. Les écoles de cirque.
Oui, alors effectivement, donc le cirque a cela de spécifique, c'est qu'avant il y avait une transmission familiale jusqu'à il y a encore 30 ans, on va dire, et puis après il y a eu l'école Fratellini, l'école Pierre et Tex, Alexis Grus et Sylvia Montfort, enfin voilà, qui ont commencé donc à enseigner des arts du cirque en dehors de la famille. Et puis ensuite, il y a eu un investissement de l'État sur des formations, des écoles même qui délivrent des diplômes supérieurs d'État. Donc ça a été aussi une reconnaissance du cirque par la société. Hein, le fait que l'école que tu as fait, Julien, délivre un bac plus 2, fait que tu as un niveau d'équivalence important de formation, parce que si tu te blesses et que tu es sur un petit fauteuil, tu peux faire une formation à partir de bac plus 2. Sache que pour ce diplôme, je me suis battu pour avoir un bac plus 5, d'ailleurs, il y a 20 ans. Mais bon, voilà. Donc, cette transmission-là s'est faite dans les écoles contemporaines avec des gens qui ont pratiqué cet art dans des cirques traditionnels. Donc, il y a eu un petit peu, pendant 20 ans, comme ça, une amélioration, une relation complexe, difficile. Voilà. Et on arrive maintenant à l'époque où effectivement des gens qui ont fait ces formations et pratiqué ces spectacles depuis 25 ans, 20 ans, vont arriver au moment de la transmission. Donc il va y avoir encore une nouvelle évolution de ces centres de formation, puisque je pense que l'acte acrobatique va encore évoluer dans son apprentissage, puisque des gens comme toi, Julien, qui vont avoir un parcours différent vont pouvoir enseigner cela.
Est-ce que ces écoles dont tu parlais à l'instant, que tu citais, est-ce que ces écoles intègrent éventuellement une formation à la pratique dans l'espace public, justement? Ou est-ce qu'elles ont finalement comme terrain d'évolution la piste traditionnelle, voire le théâtre-cirque, le cirque-théâtre?
Oui, alors je ne crois pas que spécifiquement cet aspect des choses soit abordé. Il est évoqué, il n'est pas interdit, mais je ne crois pas du tout qu'il soit spécialement abordé. Mais de la même façon dans les arts de la rue qui commencent à s'enseigner, tout ça est assez nouveau. Donc, mais je pense que c'est surtout le marché entre guillemets qui va orienter les formations, puisque si effectivement il y a un développement du cirque dans les propositions artistiques dans les années qui viennent, il y aura forcément un intérêt des formations.
Est-ce que, de ce point de vue-là, on assiste aujourd'hui à peut-être une plus grande mobilité au sein, par exemple, de l'espace européen? On en parlait tout à l'heure avec Pierre Sauvageau. Est-ce que ça permet à des jeunes artistes de pouvoir aller se former dans d'autres pays européens, voire ailleurs, d'ailleurs, plus facilement aujourd'hui?
Oui, alors le cirque, c'est un art de la mobilité. Hein, donc, effectivement, les compagnies, comme pour les arts de la rue, d'ailleurs, hein, voyagent beaucoup au travers du monde. Les artistes aussi. Mais il est vrai que cela va encore se développer davantage sur le territoire européen. Alors, au niveau des écoles, donc, il y a de plus en plus d'écoles supérieures sur l'ensemble du territoire européen. Alors, il y en a les trois plus importantes, c'est le CNAC à Châlons-Champagne, l'ESAC en Belgique à Bruxelles, et puis Circus Space à Londres. Mais il y en a aussi en Suède, enfin, etc., etc. Et ils s'en créent tous les jours, si je puis dire. Et ce qui est important, c'est de prévoir, et moi j'y réfléchis avec d'autres en ce moment, de prévoir un système d'aide à l'insertion professionnelle de 3 ans pour les diplômés des écoles supérieures des arts du cirque européennes.
Christophe, Sébastien, Julien, est-ce que vous tournez beaucoup à l'étranger?
Où ça?
À l'étranger.
Alors, à l'étranger non plus, non.
À l'étranger non plus.
Non, pour l'instant, nous, on ne tourne pas. Alors, on fait plein de choses. On est rarement chez nous à rien faire. Mais on ne tourne pas avec le spectacle Singularité Ordinaire. On ne tourne pas encore beaucoup. Il est sorti tard. Il est aussi difficile à défendre par moment parce qu'il est hybride, parce qu'il n'est pas très clair. On n'était pas assez cirque pour certains, pas assez théâtre pour d'autres, trop documentaire pour d'autres encore. C'est assez, enfin, ou pas assez d'ailleurs. Donc, mais bon, on a une tournée qui se met en route. On a plein de projets en route. On a les gens en Espagne. C'était un bonheur à Valladolid. Alors, pas un bonheur dans l'accueil, parce que l'accueil était très compliqué, mais un bonheur d'être à Valladolid. Et
qu'est-ce qui était compliqué dans l'accueil,
des conditions, on jouait dehors, justement, c'est marrant, dans un magnifique patio, mais à ciel ouvert, c'est la première fois, et c'est un spectacle qui n'a pas du tout été créé pour l'extérieur, c'est-à-dire que s'il pleut sur le plateau, il faut tout bâcher très vite, et c'est pas du tout... c'est un plateau avec un tapis de danse blanc, Julien fait des acrobaties dessus, enfin, s'il pleut, c'est même pas imaginable. Attends, dans la rue, on peut pousser, continuer, se battre, abriter un peu selon les formes, et là, c'était possible, donc ça a été dur parce qu'il faisait pas beau, parce que il y a des langages aussi à comprendre. Parfois, quand on va en Espagne, ben, on n'était pas accueilli comme on aurait été accueilli en France, il faut que nous on s'adapte, qu'ils s'adaptent, il faut se faire connaissance. Nous, on a très envie et on se promène beaucoup, indépendamment des spectacles, notamment en Europe plus qu'avant, parce que l'Europe, c'est pas venu que, enfin, c'est si le cirque et le théâtre de rue génère aussi autant d'échanges, c'est parce que l'Europe maintenant génère plus d'échanges qu'avant aussi, c'est pas, enfin, c'est dans tous les sens, mais c'est passionnant en tout cas de jouer là-bas, de traduire un spectacle qui est déjà sous-titré, de l'occitan en français, de repasser par l'espagnol, de jouer sur ces jeux de langue. On va j'espère tourner beaucoup en Europe, mais pas assez encore.
Alors on va malheureusement devoir conclure tout de suite l'émission. Pour finir, on va donner quand même quelques actualités, puisqu'on va rester là-dedans. Alors après Small is Beautiful et Rue Libre, on est maintenant en plein florilège de la folle histoire des arts de la rue. Donc c'est un nouveau festival initié par l'association Carwan. Ça se passe à Salon et c'est jusqu'à ce dimanche, le 9 novembre. C'est une belle occasion parce qu'on peut revoir ou découvrir les répertoires de 6 grandes compagnies, avec entre autres Ilotopie, Générique Vapeur, Artonic, et donc tous leurs spectacles, alors même les plus vieux, ceux qu'on a toujours eu envie de voir et qu'on a raté jusqu'à maintenant. Et à venir aussi, organisé par... qu'on a raté jusqu'à maintenant, on va essayer d'aller les voir à cette occasion. À venir aussi, organisé par lieu public, alors il y a un flash rue le 15 novembre. Et puis la prochaine sirène, dont Pierre Sauvageau va peut-être nous dire quelques mots.
Pierre?
Oui, c'est... je vais dire deux mots sur la sirène. C'est Phèdre ou c'est... c'est Phèdre. C'est Phèdre en 7 minutes. Par la compagnie Didascalie & Co, compagnie de théâtre, de salle, qui ne va jamais dans la rue. Juste vraiment deux mots sur cette histoire de sirène. Moi, je suis un artiste et un directeur. Et mon travail de directeur, c'est pas de produire des œuvres des autres, encore moins de les refaire, c'est d'essayer de faire partager des questions qui sont les mêmes. Et l'histoire de la sirène, c'est ça. C'est-à-dire que le projet est le même et on essaye de partager la question. Et à chaque fois, pour moi, Sébastien Barrier disait tout à l'heure, ils se font plaisir. Oui, en fait, moi, je continuerai l'aventure de Sirène et Midinette tant qu'elle me fera plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les artistes proposeront quelque chose de nouveau.
Merci aux participants de cette émission, Christophe Ruy, Julien Cassier, Sébastien Barrier du GDRA, et puis Guy Carrara du CREAC, et bien sûr notre invité permanent et partenaire dans cette sirène et blablabla, Pierre Sauvageau. Restez à l'écoute de La Grenouille dans quelques instants, à 19h, c'est Bienvenue au Club, l'amateur et ses invités. Merci aussi au Longchamp Palace qui nous accueille. À la technique, c'était Sébastien Gély. Dim, dim, dim.
Pam 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 p